Eroua Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 9 septembre 2016. En direct de Washington, Idrissa Sedudia et Jean-Roger Bion pour commencer les titres.
Au Gabon, Jean Ping a déposé un recours contre la réélection du président Ali Bongo.
En Côte d'Ivoire, l'opposition satisfaite de la reprise du dialogue avec le pouvoir après une réunion du cadre permanent du dialogue.
La Corée du Nord soupçonnée d'avoir mené son 5e test nucléaire après le séisme signalé aujourd'hui près du site où Pyongyang réalise ses tests.
Syrie rencontre John Kerry, Sergueï Lavrov aujourd'hui à Genève pour surmonter des différends persistants sur la crise.
Et ne manquez pas notre page de sport ainsi que la minute éco.
Pour l'instant, le journal.
L'opposant gabonais Jean Ping a finalement déposé jeudi un recours contre la réélection du président Ali Bongo, répondant ainsi à la suggestion de la communauté internationale pour gagner du temps et calmer les esprits dans la violente crise post-électorale. Eddy Sango.
Nous demandons à la Cour constitutionnelle de constater qu'il y a des anomalies graves, a déclaré à la presse un des avocats de l'opposant Jean Ping, Jean-Rémy Bantsatsa, confirmant les dépôts du recours. Celui-ci concerne essentiellement la province du Haut-Ogooué, fief ethnique des Bongo, où le président sortant a obtenu plus de 95% de voix avec plus de 99% de participation. Pour l'avocat, la compilation des 174 procès-verbaux dont son camp dispose pour le Haut-Ogooué montre dans tous les cas qu'Ali Bongo ne peut pas gagner cette élection. Le camping reprend en son compte les dénonciations d'anomalies graves faites par l'Union européenne sur le Haut-Ogooué. Le président Ali Bongo a lui aussi déposé un recours dénonçant certains pourcentages anormaux dans des régions favorables à son adversaire. Alain-Claude Billy Binze, porte-parole du gouvernement, parle de fraude massive dans ces zones. La Cour constitutionnelle, dont de nombreux opposants contestent l'indépendance, dispose désormais de 15 jours pour trancher les contentieux électoraux.
L'opposition ivoirienne s'est montrée satisfaite hier de la reprise du dialogue avec le pouvoir à l'issue d'une réunion du cadre permanent du dialogue, tout en réaffirmant ses positions sur les prisonniers politiques ou la nouvelle constitution voulue par le président Alassane Ouattara. Le dialogue a repris, a dit le leader de l'opposition Pascal Afinguesson, justifiant son retour au sein du CPD, par des gestes du pouvoir dont le dégel des avoirs de 10 cadres de son parti, le Front populaire ivoirien, fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo, ainsi que la libération de 9 prisonniers politiques. L'opposition avait suspendu sa participation en février.
Par ailleurs, la Côte d'Ivoire a annoncé jeudi la réouverture officielle de ses frontières terrestres avec la Guinée et le Libéria, fermées il y a 2 ans en raison de l'épidémie d'Ebola qui sévissait chez ses 2 voisins. Cette mesure a été possible en raison de la fin de la transmission de la maladie décrétée dans ce pays, précise le communiqué lu par Mme Kofi Goudou, la ministre de la Santé. La Côte d'Ivoire, où aucun cas n'a été détecté, avait fermé ses frontières le 23 août 2014. Dans le strict cadre des mesures préventives destinées à protéger les populations.
En Guinée-Bissau, une délégation de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a proposé la formation d'un gouvernement consensuel pour sortir de la crise politique que traverse le pays. De Bissau, Noua Mankali.
L'intention a été manifestée par le président de la commission de cette organisation sous-régionale, Marcel Dussouza, à sa sortie de la rencontre avec le président de la République, José Mario Vage.
Nous sommes tombés sur 6 points pour sortir la Guinée-Bissau dans cette situation de blocage politique et de crise économique. Les 6 points sont les suivants. Premier point, organiser autour d'une table ronde l'ensemble des partis. Il s'agit du PAIGC, du PRS et des 15 députés pour qu'on puisse arrêter une plateforme. Et cette plateforme-là, nous allons la mettre en œuvre. Deuxième point, il s'agit de mettre en place un gouvernement consensus, surtout inclusif, pour que nous allions vers une unité nationale. Troisième point, il s'agit pendant les 2 ans où nous allons mettre le gouvernement inclusif d'engager les réformes de la Constitution. d'engager la réforme des lois électorales, la réforme pour renforcer la justice et la réforme pour l'administration territoriale.
Nouaman Kalibisao, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un tremblement de terre a été signalé en Corée du Nord, près du site où Pyongyang réalise ses tests, ce qui fait penser que la Corée du Nord a mené un autre test nucléaire, son cinquième. Selon l'Institut géologique américain, le séisme de magnitude 5,3 a été détecté en surface et non pas dans les profondeurs terrestres. Un officiel sud-coréen a déclaré à l'agence Yonhap que le séisme a été très vraisemblablement causé par un essai nucléaire, bien qu'il n'y ait aucune confirmation officielle. Ce vendredi coïncide avec le jour anniversaire de la fondation de la Corée du Nord, fête marquée dans le passé par des essais nucléaires et tests de missiles.
Crise en Syrie, le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue russe Sergei Lavrov doivent se rencontrer une nouvelle fois aujourd'hui, dans l'espoir de surmonter des différends persistants sur la Syrie, des différends qui bloquent toute avancée dans les pourparlers de paix. Bagassi Koura.
Les deux chefs de la diplomatie vont se rencontrer à Genève pour soutenir un accord de paix selon les Russes et le département d'État. Leur discussion fait suite à de récentes conversations et sera centrée sur la réduction de la violence, l'élargissement de l'aide humanitaire pour le peuple syrien et les avancées vers une solution politique pour mettre fin à la guerre civile en Syrie, a expliqué le porte-parole de la diplomatie américaine John Kirby. Le secrétaire d'État américain à la Défense, Ashton Carter, a déclaré hier qu'il y avait toujours un long chemin à faire avant la conclusion d'un accord. Les deux parties estiment cependant qu'un accord devrait inclure un cessez-le-feu durable, un accès humanitaire aux zones de conflit et une reprise des négociations de paix qui sont au point mort. Barack Obama avait eu des entretiens sur la Syrie avec son homologue russe Vladimir Poutine en marge du récent sommet du G20 en Chine, mais aucune percée n'avait été enregistrée.
Le patron de la CIA a averti que l'influence du groupe État islamique ne va pas disparaître de sitôt, bien que les territoires qu'il tient en Irak et en Syrie continuent de se rétrécir. John Brennan a dit mercredi, lors d'un sommet sur la sécurité nationale à Washington, que l'organisation restera une présence dans ces deux pays pendant un certain temps encore. M. Brennan a également mis en garde contre l'impact durable des combattants étrangers tentant éventuellement de rentrer chez eux.
Présidentielle américaine 2016, le républicain Donald Trump et le démocrate Hillary Clinton ont échangé hier certains des propos les plus vifs de cette campagne, 24 heures après un forum télévisé sur la sécurité nationale.
Intervenant dans une école de Cleveland, dans l'Ohio, M. Trump a soutenu que la performance de Mme Clinton mercredi soir prouvait qu'elle n'était pas apte à être commandant en chef. Il a accusé de refuser d'assumer l'échec de ses politiques au Moyen-Orient quand elle était secrétaire d'État. Qualifiant Mme Clinton de gâchette facile, M. Trump a dit qu'elle s'était engagée dans une course pour envahir des pays et renverser des régimes, ce qui a résulté à la ruine et à la mort en Libye, en Irak et en Syrie. Il a aussi dit qu'elle était à la tête d'une entreprise criminelle en parlant de trafic d'influence à la fondation Clinton, tout en fustigeant son recours à un serveur privé.
Pour sa part, Mme Clinton, lors d'un rassemblement à Charlotte, en Caroline du Nord, a dit être choquée par les propos de Donald Trump, selon lesquels le président russe, Vladimir Poutine, était de loin un meilleur leader que le président Barack Obama.
Ça manque non seulement de patriotisme, mais c'est aussi une insulte contre la présidence des États-Unis et l'homme qui occupe ce poste. C'est effrayant, c'est dangereux. Hillary Clinton a par ailleurs ridiculisé le prétendu plan secret de M. Trump pour détruire le groupe État islamique. C'est un secret parce qu'il n'a pas de plan. Elle a aussi reproché à M. Trump ses commentaires publics sur un briefing donné aux deux candidats sur la sécurité nationale.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Au Burkina, un web TV se consacre exclusivement aux activités agricoles et au monde rural africain. L'objectif de son promoteur et fondateur, Moussa Maïga, changer l'image, souvent mauvaise, de l'agriculture auprès des jeunes Africains et à sa manière d'aider au développement du continent. L'Union européenne a soutenu l'initiative avec 58 000 euros. Ce web compte aujourd'hui plus de 45 000 fans sur Facebook et a comptabilisé 800 000 vues de ses reportages. La Guinée a infligé une amende de 3 millions d'euros à deux navires industriels chinois qui pêchaient illégalement au large de ses côtes. Du 28 août au 1er septembre, ces deux navires et 12 autres bateaux de pêche ont violé les eaux gambiennes, sénégalaises, guinéennes et bissau-guinéennes. L'opération de surveillance, menée avec le soutien de l'Union européenne et de la Banque mondiale, permet de contrôler plus de 80 bateaux de pêche. Enfin, le géant informatique américain Apple a dévoilé ce mercredi, lors d'une présentation à San Francisco, deux nouvelles versions de son produit vedette. Il s'agit de l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus qui résistent à l'eau. Les deux appareils ont des processeurs plus puissants et leur appareil photo intègre des technologies censées garantir de meilleures images. Le modèle 7 Plus aura même un système de double caméra. La montre Apple Watch série 2 a été mise à jour. Elle inclut une résistance à l'eau jusqu'à une profondeur de 50 mètres, un GPS qui permettra à ses utilisateurs de monitorer leur activité sans avoir à emporter leur smartphone. Parallèlement, Apple sortira le 13 septembre une nouvelle version de son système d'exploitation mobile baptisé iOS 10.
À présent, notre page sport avec Jacques Aristide. Jacques, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Deux des clubs les plus puissants et performants d'Europe, le Real tenant de la Ligue des Champions et l'Atlético Madrid finaliste, seront privés de recrutement lors des deux prochains marchés des transferts de janvier et août 2017.
Oui, c'est ce qu'a confirmé la FIFA hier. Les deux clubs madrilènes avaient été sanctionnés le 14 janvier dernier d'une interdiction de recruter pour des infractions dans les transferts de joueurs mineurs, à l'instar du FC Barcelone, sanctionné en 2014. Ils ont également écopé d'une amende, respectivement de 822 000 euros et 328 000 euros, et disposent de 90 jours pour régulariser la situation de tous les joueurs mineurs concernés.
Le comité paralympique international a annoncé hier avoir sanctionné un Bélarusse.
Parce qu'il avait brandi un drapeau de la Russie avant-hier à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Rio, alors que les Russes sont exclus de la compétition en raison du scandale de dopage d'État. L'homme n'est pas un athlète, mais un ami du président du comité paralympique bélarusse. Les manifestations politiques ne sont pas autorisées aux Jeux paralympiques, d'après un porte-parole du comité paralympique international. En signe de protestation, la Russie organise jusqu'à ce vendredi des Jeux paralympiques parallèles avec les mêmes récompenses pour ses athlètes que s'ils étaient à Rio de Janeiro.
Puisque nous parlons de Rio, Jacques, revenons sur l'affaire Ryan Lochte, déjà lâché par la plupart de ses sponsors depuis son coup de folie de Rio. Lochte n'a pas été ménagé hier par les instances sportives américaines qui lui ont infligé des sanctions lourdes, dont une suspension de compétition de 10 mois.
Il faudra attendre au mieux le 30 juin l'année prochaine pour le revoir en compétition. L'un des plus beaux palmarès de la natation américaine, Lochte s'est empêtré dans une rocambolesque affaire d'agression inventée durant les Jeux Olympiques. Le Comité Olympique Américain et la Fédération Américaine de Natation l'ont également condamné à réaliser 20 heures de travaux d'intérêt public, lui ont interdit l'accès à leurs infrastructures et ne lui verseront pas la prime qu'il aurait dû recevoir pour son titre de champion olympique du relais 4 x 200 mètres à Rio. Ultime humiliation, le nageur de 32 ans ne sera pas de la délégation des médaillés olympiques qui se rendent traditionnellement après chaque JO à la Maison-Blanche à l'invitation du président des États-Unis. Et tennis avec le US Open, les derniers résultats avec vous Idrissa.
Oui, avec la quatrième et dernière levée du Grand Chelem disputée jeudi à New York, simple dame demi-finale, Carolina Pliskova bat Serena Williams, qui perd son titre de numéro 1 mondial. Angélique Kerber bat Caroline Wozniacki.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Seydoudia, en votre compagnie, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Ici à Washington, un groupe de protestataires gabonais a silencieusement manifesté au Congrès américain lors d'audiences publiques de la sous-commission des affaires étrangères consacrée à la situation au Soudan du Sud. Sur les raisons de cet acte, John Lyndon s'est entretenu avec Frank Joktan.
Nous avons manifesté hier avec mes compatriotes pour justement nous assurer que les autorités américaines sont au courant de la situation qui se passe au Gabon. Nous sommes outragés de voir que notre peuple est martyrisé. Il y a beaucoup d'arrestations, il y a beaucoup de Gabonais qui ont été tués et qui ont été violentés.
Est-ce que vous pensez que les États-Unis vont réagir?
Je pense que c'est dans l'intérêt des États-Unis qu'ils réagissent. Bon, hier, quand on est allé au Congrès, ils se sont manifestés en demandant, en encourageant le président Obama d'encourager Ali Bongo de pouvoir recompter les votes.
Alors, sur place au Gabon, l'opposant Jean Ping a introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Comment vous voyez cette action?
Bon, je pense que le candidat Jean Ping l'a fait parce que, bon, il y a beaucoup de pression à l'international. Donc, je pense qu'il joue en ce moment le jeu. Je pense qu'il veut aussi satisfaire la communauté internationale et ses obligations vis-à-vis des Gabonais et aussi la constitution gabonaise. Je ne fais pas confiance aux institutions gabonaises parce que, pour moi, elles sont taillées de sur-mesure pour l'homme au pouvoir, c'est-à-dire Ali Bongo Ondimba. Donc, je pense que même si on va à la Cour constitutionnelle, cette Cour constitutionnelle ne dira pas le droit, elle n'est pas impartiale. Elle se mettra toujours du côté d'Ali Bongo, de sa famille et de leurs alliés. Je pense que Jean Ping a accepté d'y aller pour respecter en fait le vœu de la communauté internationale et puis bon, la pression dans laquelle il est.
Sachant justement que les décisions de la Cour sont sans appel, et si la Cour confirmait la décision de la CENAP?
En ce qui me concerne, je considérais que mon vote a été volé et que le vote de milliers de Gabonais a été volé. Moi, je veux que le Gabon soit un pays démocratique comme tous les pays du monde, hein, qui se respectent. Je dis et je veux que le choix des Gabonais et le choix des urnes soient respectés. Donc, bien entendu, je n'accepterai pas que la CENAP me vole mon vote une deuxième fois. Et je pense que beaucoup de Gabonais n'accepteront pas cela non plus.
Frank Joktan, jeune activiste gabonais.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Certaines jeunes entreprises nigérianes de technologie reçoivent une modeste aide du gouvernement. Ce mois-ci, 30 d'entre elles ont concouru pour avoir une chance de présenter leur projet directement au président Muhammadu Buhari. 3 d'entre elles ont atteint la finale et chacune des gagnantes a obtenu une belle surprise. Le reportage de Chika Odoua à Abuja, présenté par Arzuma Compaoré.
Emma Okena et son équipe sont l'une des 3 équipes à présenter leur proposition au président nigérian Muhammadu Buhari. Avec l'aide de Microsoft, l'équipe Tracology a développé un moyen facile pour le gouvernement d'assurer le suivi du paiement des factures des services publics.
I'm the CEO and founder of Fresh Direct Nigeria, and we are creating uncommon farmers in urban spaces using container farming.
Nous avons créé un procédé breveté où nous mettons les codes barres sur vos bâtiments afin que le gouvernement et les services publics puissent vérifier en temps réel si vous avez payé ou non et offrir ces services. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, qui visitait le Nigeria pour la première fois, a assisté à leur exposé.
I am the founder of Grid Systems, and what we make is a web-enabled multi-source energy monitoring device.
Ce voyage m'a vraiment époustouflé au vu du talent des entrepreneurs et des promoteurs de ce pays, et l'accent mis sur la construction de quelque chose qui va faire la différence et entraîner un changement. La compagnie d'Okena et les 2 autres finalistes ont chacune remporté un prix surprise d'environ 8 000 $. Le gouvernement veut encourager les jeunes technophiles dans l'espoir de redynamiser l'économie du Nigeria, durement touché par la baisse des coûts du pétrole. Tracology n'a pas été la seule entreprise en compétition. Il y avait aussi Grid System, dont Idefayo Oladipo est le fondateur.
Once the utility provider comes to the house, all he has to do is just scan this.
Ce que nous proposons est un outil multisource de surveillance d'énergie exploitable sur le web. C'est un peu comme un compteur d'énergie, mais il mesure la consommation d'énergie des différentes sources d'énergie que vous avez. De nouveaux espaces de travail public ouvrent à Abuja pour encourager les entrepreneurs technologiques. Si vous êtes basé dans le Nord, vous pouvez venir à Venture Park, vous détendre, travailler sur vos produits et obtenir toutes les ressources, tout le soutien dont vous avez besoin pour être en mesure de vous développer, comme les autres startups à Lagos, en Afrique, dans la Silicon Valley, aux États-Unis. Si les espoirs du gouvernement nigérian se réalisent, l'une des startups d'Abuja fleurira et deviendra le prochain Facebook.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Retour ce matin sur l'accident ferroviaire dû à l'effondrement du pont du fleuve Nzi, mardi à Dimbokro. Dans le centre de la Côte d'Ivoire, le train de marchandises qui reliait Abidjan à Ouagadougou au Burkina Faso comportait 2 locomotives et 20 wagons transportant plus de 1000 tonnes de marchandises. Le trafic ferroviaire entre les deux États sera interrompu pour au moins 2 semaines, ont annoncé les responsables de la compagnie Citarail qui gère le trafic. Bagasikoura a joint à Ouagadougou Karim Gadiaga, journaliste à l'Économiste du Faso.
La ligne de chemin de fer Burkina-Côte d'Ivoire est présentée en quelque sorte comme le cordon ombilical entre les deux pays sur le plan des échanges commerciaux. Et chaque année, c'est près de 300 000 voyageurs qui voyagent par les trains et 900 000 tonnes de marchandises qui sont transités en tout cas entre les deux pays et via les trains. Donc du coup, cette ligne-là a une importance capitale, en tout cas en termes commerciaux et entre les deux pays.
On nous annonce que la communication va être interrompue pour au moins 2 semaines à cause de l'accident qui a eu lieu à Dimbokro. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le plan économique?
Sur le plan économique, déjà de façon immédiate, puisque nous sommes en plein préparatif de la fête des Tabaski, la fête des Light et le Kébi, où effectivement il y a le mouton qui est consommé au niveau de la Côte d'Ivoire, et ce mouton qui est consommé au niveau de la Côte d'Ivoire transite en tout cas en provenance du Burkina et puis des autres pays sahéliens, notamment le Niger et le Mali, et tous ces animaux-là sont transités par les trains à destination de la Côte d'Ivoire. Donc de façon immédiate déjà, c'est le transport du bétail qui pourrait en tout cas faire les frais de cet accident-là sur le chemin de fer. Et puis à la longue aussi, c'est aussi je le disais tantôt, puisque le chemin de fer a une importance capital pour le transport des marchandises entre les deux pays, notamment les minéraux, les matériaux comme le pétrole, les ciments et autres. Donc du coup, le transport de toutes ces marchandises-là qui pourraient, en tout cas à un moment donné, connaître des difficultés en attendant que la ligne soit rétablie.
Est-ce qu'il faut voir dans cet accident l'entretien du chemin de fer qui est quand même assez ancien, hein?
Effectivement, vous posez une question qui est très juste parce que il était prévu à l'occasion de la signature du nouveau contrat de concession en début d'année 2016. Voilà, il était prévu la réfection de cette ligne-là et cette réfection devait quand même coûter près de 272 milliards, prévu sur 5 ans. Bon, du coup, l'accident arrive avant le démarrage de ces travaux et prouve du coup qu'effectivement, il y a un besoin réel de réfection de la ligne.
Karim Gadiaga, journaliste à l'Économiste du Faso.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Présidentielle américaine 2016, la Caroline du Nord donne ce vendredi le coup d'envoi du scrutin du 8 novembre avec le démarrage de son vote par anticipation. Le point avec Lionel Gahima.
Oui, Idrissa, la Caroline du Nord est l'un des 37 États de la Fédération à permettre le vote par anticipation. Lors de la présidentielle de 2008, plus de 45 millions d'Américains, soit 35 de l'électorat, avaient voté avant la date officielle. Pour cette année, certains fonctionnaires américains déployés à l'étranger ont déjà voté. Tous les suffrages ne seront dépouillés et comptés que le jour de l'élection, à savoir le 8 novembre. Les conditions du vote par anticipation et du vote en général varient en fonction des États et des territoires américains. Aussi, à l'approche de chaque élection, elles font souvent l'objet de vives querelles. Jeudi, le Conseil électoral de la Caroline a écouté les partis en conflit dans 33 des 100 comtés de cet État où les leaders n'ont pas su s'entendre sur le plan pour le vote par anticipation. Parmi les questions litigieuses, celle de l'inclusion du dimanche parmi les jours du vote par anticipation. C'est un jour particulièrement bénéfique pour les électeurs africains-américains qui s'organisent pour aller voter en masse après le service religieux. 21 comtés de Caroline du Nord avaient autorisé le vote du dimanche à la dernière élection, mais ne sont plus que 12 cette fois-ci.
Une cour d'appel fédérale avait invalidé en grande partie une loi électorale approuvée en 2013 par les Républicains, majoritaire dans l'Assemblée de Caroline du Nord, Lionel.
Oui, Idrissa, les élus républicains de la Caroline du Nord avaient fixé des conditions draconiennes pour les élections, avec notamment une vérification stricte de documents d'identification et une réduction de la durée du vote par anticipation. La Cour fédérale d'appel a estimé que ces mesures ont contribué à une suppression du vote africain-américain avec, dit-elle, une précision presque chirurgicale. L'instance judiciaire fédérale a rétabli la durée initiale du vote par anticipation en Caroline du Nord, mais a laissé au comté la latitude de fixer le nombre de bureaux de vote ainsi que la durée du scrutin. La Caroline du Nord est l'un des États clés de la présidentielle 2016. Le président Barack Obama, un démocrate, y a gagné de justesse. D'où les intenses efforts des camps de la candidate démocrate Hillary Clinton et de son adversaire républicain Donald Trump en direction des électeurs de cet État.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Mayen Kaba, Mohamed La de Bruxelles. Tamarez, Tamarez, Rezo Banta Soyo, Tamarez. Rezo banta soyo, ey.
Bebe fa, rezo soya.
A benyi, ma rezo benyi. A benyi nre, im ma rezo dousi.
Kapese.
A luna, ma rezo lou fefeu.
Safira rezo.
A benyi nre, im ma rezo fente. Orlando, de Bruxelles.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et à Georges Léonard Sagnot Pour la mise en onde, un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.